Pour notre chronique sexothérapie sur Fréquence Mistral, nous retrouvons Maïri Boudet, sexothérapeute à Sisteron et Gap, spécialisée en sexologie et thérapeute de couple.
Bonjour à tous, je suis donc Maïri Boudet, sexothérapeute et thérapeute de couple à Sisteron et Gap.
Maïri, pour notre chronique aujourd'hui, le sujet que vous avez choisi.
Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de violence dans les situations conjugales et familiales.
La réflexion est large.
Eh bien justement, c'est pour ça que je souhaitais qu'on aborde le sujet de cette manière et volontairement de manière large, car lorsqu'on parle de violence, on peut parler à la fois de subjectivité, c'est-à-dire la personne qui subit de la violence, qui se sent violentée, donc attaquée, blessée, humiliée par l'autre, qui peut être son partenaire, ou on peut parler de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Et puis, il y a la violence objective, c'est ce qui relève de l'insulte et des coups. À mon cabinet, ce sont des situations que je retrouve, c'est-à-dire des situations de violence objective et des situations où la violence est perçue de manière subjective. Alors attention, lorsque je parle de perception subjective, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Que je pars du postulat que ça pourrait n'être pas vrai. Par contre, c'est important de le prendre comme quelque chose qui relève de la perception et non pas de quelque chose de factuel. C'est pour ça que, par exemple, si ma compagne me dit que je l'ai blessée, que je l'ai humiliée en disant que je trouvais qu'elle ne nettoie pas bien le sol, ce qui est peut-être potentiellement le cas. C'est vrai, peut-être que je l'aurais dit de manière un petit peu humiliante en disant « Oh ben, tu sais vraiment pas laver le sol. Enfin, je veux dire, comment oses-tu ne pas savoir laver le sol ?» Si elle me met une gifle en parallèle, en réponse à mes propos, malgré le fait que mes propos auront été en effet humiliants, pour autant, la gifle est une réponse violente factuelle.
Là, Naïri, nous sommes dans la violence concrète, telle que je la perçois, mais la violence qui est plus perfide peut-être, celle qu'on ne peut pas palper et qui est là, comme par exemple la proximité de certaines personnes qui pourraient influer, qui pourraient être néfastes à la réflexion en général et à la vie tout court.
Oui, c'est là que beaucoup de personnes parlent de personnes toxiques qui sont autour d'elles. Et ça me donne envie de parler de plusieurs situations que j'ai rencontrées à mon cabinet, des femmes qui ont pu me dire qu'elles étaient traitées de folles directement ou indirectement par leurs compagnons. C'est-à-dire que c'est leur lucidité qui est mise en cause, leur perception, qu'elles sont comme si elles avaient une mauvaise compréhension des choses et de la vie. Et donc, du coup, ça met le doute. Et c'est là que c'est perfide pour reprendre vos mots. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui en viennent à douter d'elles-mêmes jusqu'au plus profond d'elles-mêmes. Et là, ça devient très compliqué, du coup, d'avoir une discussion avec le partenaire. Parce qu'en fait, on part perdant, puisqu'on est le fou ou la folle. Mais il est vrai que ces situations-là sont surtout rencontrées avec des hommes vis-à-vis des femmes, c'est-à-dire des hommes qui vont tenir de tels propos vis-à-vis de leur compagne.
Pour aborder la thérapie de couple, nous sommes dans la relation de couple. Comment doit-on se comporter quand on se sent blessé, quand on se sent en position donc, peut-être de fragilité face à cette violence ?
Je pense que ce qui est important de pouvoir faire, c'est de pouvoir le dire, en fait, qu'on est blessé et qu'on se sent humilié. Souvent, on réagit sur le plan émotionnel, enfin, on réagit et parce qu'on se sent blessé. Et donc, il y a des pensées qui fusent, il y a des émotions fortes qui sont ressenties, il y a certains propos aussi qui sont énoncés. Mais je pense que c'est important que les personnes puissent essayer de conscientiser, d'être pleinement présentes en fait dans les échanges qu'elles ont, surtout lorsqu'il y a des tensions, de manière à pouvoir dire « waouh, 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 en fait là tu viens de me blesser en fait ». Et comme la situation que j'évoquais tout à l'heure, donc une personne qui a arrêté son mari, enfin une femme qui a arrêté son mari en lui disant « Mais en fait, là, tu es en train de dire quelque chose qui me blesse particulièrement. Qu'essaies-tu de me dire, en fait ?» Donc, il y a deux choses. Soit on peut dire « Je suis blessée », soit on peut inviter la personne à nuancer ses propos. Et l'idéal étant de dire les deux. c'est-à-dire à la fois l'impact que ça a sur la personne qui se sent blessée et à la fois une demande de nuance, puisque l'autre, c'est pour ça que je parlais de perception, de subjectivité, l'autre n'a peut-être effectivement pas voulu blesser. Et là, c'est important que l'autre ne dise pas « Non, mais tu te vexes pour rien, tu déconnes complètement, même je n'ai pas voulu dire ça, je n'ai pas voulu dire ça, je n'ai pas voulu te blesser. » Oui, mais le fait est que moi, je me sens blessée. Donc, qu'as-tu voulu dire exactement? Pourquoi as-tu utilisé cette formulation-là? Pourquoi as-tu mis en doute mes propos de cette manière-là? Qu'essayais-tu de faire? Vous voyez, c'est important de pouvoir discuter de ce qui s'est produit, en fait. Mais il est vrai que souvent, sur le coup, les émotions démarrent au quart de tour et nous donnent envie de recourir à la colère, peut-être même parfois des insultes. Mais le plus important, c'est de pouvoir s'arrêter et de dire qu'est-ce qui est en train de se passer là? De quoi sommes-nous en train de parler? Un autre type d'échange qui pose problème, c'est si on est en train de parler d'un sujet. Je suis en train de parler avec mon compagnon de la manière dont ma belle-mère m'a traitée récemment, le fait que je me suis sentie un petit peu maltraitée verbalement par ma belle-mère. Et si mon compagnon me répond « Oui, eh ben, tu vois, c'est typiquement ce que je ressens avec ta mère. » Ok, mais par contre, là n'est pas le sujet. Donc, si tu veux, on parlera de ce que tu ressens après. Mais pour le moment, il est important que moi... je puisse t'exprimer ce que je ressens, l'inconfort que je ressens avec ta mère. Et là, je suis en train de te demander de prendre position vis-à-vis de ta mère. Peux-tu le faire ou pas? Voyez. Et une fois qu'on a fini ce sujet, effectivement, après, on peut venir parler des relations de ma mère et de mon compagnon. Mais chaque sujet en temps et en heure. Et le fait que mon compagnon, à ce moment-là, me dise « Ah, eh bien, tu vois, c'est exactement ce que je ressens, moi », ok, mais cela n'est pas un argument qui vient justifier la position de sa mère vis-à-vis de moi.
Nahiri Boudet, la professionnelle que vous êtes, donc nous parlons des relations que vous avez avec les patients que vous rencontrez. Y a-t-il des cas de figure où vous interprétez cette violence de certaines personnes comme une blessure? Enfin, vous interprétez, vous en déduisez qu'il y a derrière tout ça une blessure et qu'il faut peut-être aller chercher cette blessure pour, entre guillemets, guérir cette violence et cette agressivité peut-être?
Oui, bien sûr, je le vois, et puis pas que moi, les personnes elles-mêmes le voient. Et c'est là que ça les conduit aussi à être complètement déroutées. C'est-à-dire, comment pouvons-nous avancer ensemble malgré tout, alors même que lorsque l'autre s'en prend à moi d'une certaine manière, ça fait revivre certains traumas. Malgré l'amour qu'il peut y avoir dans le couple, malgré la confiance qu'il peut y avoir dans la relation, parfois aussi, souvent même, la réaction de mon partenaire ou de ma partenaire va venir me chercher de manière très violente à des endroits qui ne sont pas réglés, sur des traumas. Et effectivement, c'est déjà important. Alors, si la personne n'en a pas conscience, qu'on puisse en parler en séance, mais en tout cas, de pas non plus, une fois que c'est connu de la personne aussi, de pas le ramener à chaque fois en disant « Ah ben voilà, c'est mon trauma ». Qu'est-ce que c'est le trauma? On en a déjà parlé. C'est une blessure psychique qui est réactivée à chaque fois par des éléments déclencheurs. Éléments déclencheurs du présent ou du passé, mais souvent c'est du présent. Simplement dire à mon compagnon « Tu vois ce que tu dis là, me violente parce que ça réactive mon trauma. » Ok, donc ça apporte une explication. C'est pour ça que je m'emporte, parce que ça réactive mon trauma. Mais pour autant, la conséquence, c'est que même si l'autre a réactivé mon trauma, moi, je me suis mise à insulter mon compagnon ou ma compagne, par exemple. Et ça, ok, ça a réactivé mon trauma. Il n'empêche que ça ruine, en fait, la confiance dans le couple. Puisqu'en fait, les insultes font partie de la violence verbale.
Le couple, pour revenir au couple, doit-il réfléchir à deux dans un cas comme celui-ci, par l'intermédiaire, bien sûr, d'une professionnelle comme vous? Mais faut-il être deux pour y réfléchir sur ce sujet?
Par l'intermédiaire d'un professionnel comme moi ou tout simplement à deux aussi. Mais c'est vrai que cela suppose une certaine confiance dans le couple, et c'est justement là où le bât blesse, c'est-à-dire que les personnes que je reçois à mon cabinet se font relativement confiance, parce que sinon elles ne pourraient pas supporter la vie à deux, ou ne pourraient pas supporter non plus l'idée de venir ensemble en séance de thérapie de couple pour pouvoir mieux s'entendre. Donc c'est bien qu'il y a pas mal de confiance déjà. Il n'empêche que ce sont des personnes qui ne vont pas se sentir totalement en confiance quand même, puisqu'elles vont se dire « Ah, mais en fait, l'autre, il peut me faire du mal. » Voire, l'autre, il veut me faire du mal. Alors, pas forcément me faire du mal, c'est-à-dire me nuire complètement, mais il peut me faire du mal, ben même dans les couples que j'accompagne, dans la séparation, par exemple. Je veux dire, souvent, ce sont pas des mauvaises personnes. Et vous savez très bien ce que je pense de la méchanceté. Ou je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient intrinsèquement méchants. Il n'empêche que lorsque je me sens attaquée, quand j'ai l'impression que mon ex-femme ou mon ex-mari va me prendre les enfants, par exemple, bien que ce soit discutable, d'accord, la possessivité vis-à-vis de ses enfants. Mais il n'empêche que beaucoup de personnes que je reçois au cabinet l'expriment ainsi. Il veut me prendre les enfants ou elle veut me prendre la maison. Du coup, ça conduit les personnes à tellement avoir peur que du coup, elles vont avoir des réactions qui peuvent être violentes parfois, comme dénoncer, par exemple, aux impôts, quelqu'un, un compagnon qui n'aurait pas tout déclaré ou raconter plein de choses intimes et secrètes sur son ex-compagne, partir du principe qu'on va tout faire pour ruiner la vie de l'autre. Ce sont des réactions de personnes en fait, qui ont terriblement peur et qui se disent « il faut absolument que je morde avant pour ne pas être mordue ». Mais du coup, là, par contre, on rentre dans un cycle de violence.
Quand on est victime de violence, quelle que soit cette violence, est-ce qu'on se sent infériorisé ? Ou alors est-ce qu'on peut être plus combatif, comme vous le disiez ? Comment analyser tout ça ?
Oui, c'est là que ça finit par poser problème. C'est-à-dire que lorsque la situation conjugale est pleinement asymétrique et que c'est toujours le même ou la même qui domine la situation, il y a de grandes chances quand même que l'autre, même si au début l'autre résiste, qu'au bout d'un moment, ça finisse par complètement altérer son jugement sur lui-même. Donc c'est là où c'est extrêmement problématique, parce que du coup, ça freine aussi les démarches telles que celles de venir en thérapie de couple ou en séance de thérapie individuelle.
Je le rappelle, vous qui êtes au contact, Nahiri Boudet, sexothérapeute, thérapie de couple. Si vous tiriez un petit bilan, on parle de la violence, donc c'est le sujet. Est-ce qu'elle va crescendo, cette violence, par rapport à l'expérience que vous avez, ou les choses sont plus canalisées à présent ? De quelle façon vous percevez ça au quotidien ?
Je ne pourrais pas dire qu'elle va crescendo, en tout cas dans ce que j'observe, évidemment, à mon cabinet. Et il est vrai que même si je vois beaucoup de monde, depuis quelques années, je ne pourrais pas dire que je suis en première ligne comme peuvent l'être les pompiers ou les gendarmes ou les assistantes sociales qui, eux, vont avoir accès carrément aux personnes dans leur logement et être exposées immédiatement à la misère. Et je ne parle pas que la misère économique, mais aussi la misère sociale, des gens qui sont isolés, qui sont dans l'addiction. Les personnes qui viennent me voir, malgré tout, ont un certain recul sur la situation, ce qui n'empêche pas, par contre, et on en avait déjà parlé, les situations d'emprise. Ça, oui, par contre, je le vois beaucoup. Mais je ne pourrais pas dire qu'il y en a plus. Par contre, mon regard est aussi avec toutes mes lectures, et il faut le dire, l'actualité aussi, parce que de plus en plus de récits sortent quand même dans le domaine médiatique de personnes qui ont été dans des situations d'emprise. Je le vois et j'essaie de voir aussi comment on peut composer avec ça. En thérapie de couple ou en thérapie individuelle, parce que la personne, même si son jugement est altéré, la personne qui est sous emprise, même si son jugement est altéré, pour autant, si elle reste, c'est qu'elle a aussi quelque chose à gagner. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est heureuse ou qu'elle est bien ou qu'elle n'est pas sous emprise. Emprise, il y a toujours à partir du moment où on parle de relation d'emprise, mais il y a toujours quelque chose que j'espère en tout cas avoir. Et donc, c'est accompagner aussi la personne pour qu'elle puisse abandonner en fait ces espoirs-là, par exemple ces idéaux en matière de vie conjugale, que c'est pas bien de se séparer ou c'est pas bien pour les enfants, ou moi je pensais pas qu'on était un couple qui finirait comme ça. Donc ce qu'elle a à gagner, par exemple, la personne, c'est pas forcément de l'argent ou de la reconnaissance, mais c'est peut-être tout simplement le fait d'être rassurée dans l'idée qu'elle colle un tant soit peu à son idéal. Donc pour revenir à ce que vous me disiez, est-ce que la violence va crescendo ? Je dirais que mon regard aujourd'hui est plus aiguisé et donc je vois effectivement pas mal de situations d'emprise à mon cabinet, mais je dirais par contre que je vois surtout beaucoup de personnes qui ne savent pas comment faire et qui se font du mal. Enfin, je le dirais plutôt comme ça. Je vois des personnes qui souffrent énormément, des personnes qui ont peur et des personnes qui recourent à des stratégies maladroites et ou violentes parce qu'elles ont peur, peur de perdre, peur d'être seule, peur d'être rejetée. Et pour moi, à partir du moment où on commence à travailler là-dessus, sur ces différentes peurs, on peut aussi amener la personne à avoir d'autres comportements lorsqu'elle se sent agressée. Finalement, je pense que c'est important de pouvoir réfléchir aussi à la manière dont nous résistons à la violence. Est-ce qu'on résiste à la violence par la violence ? Est-ce qu'on peut choisir de recourir à d'autres méthodes ? Beaucoup vont être dans l'évitement des conflits, par exemple, et nombreuses sont les personnes qui réagissent comme ça au sein de mon cabinet. Je pense que ça devient intéressant de confronter l'autre aussi à sa violence, mais pas forcément par de la violence, mais en l'interpellant, sachant que la plupart des gens, moi aussi, vous aussi sans doute, n'aiment pas être ramenés à une mauvaise image d'eux-mêmes. Donc du coup, ça peut être perçu comme une violence d'ailleurs. Le fait qu'on me dise mais de toute manière, Neyri, qu'est-ce que tu es, je ne sais pas, un but de ta personne est mauvaise, je pense que ça me vexerait énormément. Et je pourrais avoir envie de répondre qui es-tu donc pour me dire une chose pareille ? Est-ce que tu t'es regardé ? Vous voyez, et là, on est typiquement dans un échange qui, pour le coup, là, va aller crescendo parce que c'est plutôt intéressant que je puisse demander à l'autre personne, mais que veux-tu dire par là ? Qu'est-ce qui te fait penser que je suis un but de moi-même et une mauvaise personne ? Parce que moi, je ne me reconnais pas dans ce portrait-là et franchement, ça me fait mal en fait. Ça me vexe et peut-être même que je pourrais dire, ça me rappelle ce que me disait ma grand-mère quand j'étais petite et du coup, c'est hyper violent. Et à partir du moment où on arrive à aborder les choses comme ça, je pense qu'on peut aller vers davantage de confiance aussi dans le couple. Donc, première des choses, en dehors des situations de dispute, comme on le disait la dernière fois, c'est important de faire le point de ce qui nous rassemble, de ce qui nous permet de nous sentir bien ensemble et un minimum en confiance. Une fois que ça s'est réactualisé, on peut commencer à se questionner ensemble sur les situations de violence qui sont à l'œuvre dans la relation.
Merci Nahiri Boudier, notre chronique se termine. Alors c'est vrai que les auditrices et auditeurs sont de plus en plus nombreux sur le site, l'émission est très écoutée aussi. Pour vous contacter, de quelle façon faire ? Parce que vous avez donc deux cabinets distincts.
Les personnes peuvent donc aller sur mon site internet et consulter les articles que je rédige de temps à autre sur mon blog. Donc c'est le www.nb.sexothérapie.com ou me contacter à mon numéro le 07 49 92 31 65.